Voici une question dont la réponse va nous amener à mieux connaître le Seigneur. Est-ce que Dieu a le droit de reprendre la vie d'une personne? La parole de Dieu va nous répondre de manière à nous faire connaître davantage notre Créateur, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quelle belle richesse la Bible possède pour chacun de nous qui désirons mieux connaître Dieu pour accomplir sa volonté. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Sommes-nous obligés de donner de l'argent à l'Église? Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que Dieu a le droit de reprendre la vie d'une personne? Qu'est-ce qui confirmait l'authenticité du message des apôtres? Les croyants doivent-ils obéir aux autorités civiles en tout temps? Est-il possible de se réjouir authentiquement quand on souffre? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a une Bible ouverte devant lui et il est sur le point de nous enseigner la parole de Dieu. Mais premièrement, demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre son message d'amour. Prions. Seigneur mon Dieu, on est devant toi avec les oreilles grandes ouvertes pour entendre ce que tu vas nous dire par la bouche de ton serviteur. Aide-nous à bien comprendre ton beau message. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que 5000 hommes se convertirent après la prédication de Pierre dans le temple. Les chefs religieux et les sadducéens firent arrêter Pierre et Jean afin de les juger. Pierre a profité de cette occasion pour leur dire que c'est par la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité qu'ils ont guéri le boiteux de naissance et ils ont affirmé que le Seigneur était le seul sauveur désigné par Dieu. Au chapitre 5, nous allons voir Dieu protéger sa jeune église de chrétiens qui cherchent leur gloire personnelle avant la gloire de Dieu. À la fin du chapitre 4, nous avons vu que Barnabas avait vendu un champ afin de faire don du fruit de la vente à l'Église. Barnabas était un des saints merveilleux qui faisait partie de la jeune Église. Il a même accompagné l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire en Galatie. Dieu a béni le ministère de ces deux hommes. Maintenant, nous allons voir un exemple de chrétien charnel. C'est cette attitude qui empêche l'Église de fonctionner comme le faisaient les premiers chrétiens. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Actes, chapitre 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ce couple veut imiter Barnabas qui s'est fait remarquer par son don généreux. Barnabas l'a fait pour la gloire de Dieu, mais cela lui a néanmoins attiré une certaine notoriété dans l'Église. Ananias et Saphira voulaient aussi être admirés et bien vus. Certaines personnes font des dons généreux afin d'être applaudis des hommes. Ils les font publiquement pour être admirés. C'est le fruit de l'orgueil, et il en est ainsi avec Ananias et Saphira. Verset 2. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il n'y avait rien de mal à retenir une partie du prix. La propriété et l'argent leur appartenaient, et rien ne les obligeait à donner un seul cent à l'Église. Les dons doivent être faits avec joie et sans contrainte. L'Église vit sous la grâce. Personne n'est obligé de contribuer quoi que ce soit. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Nos offrandes doivent être des actes d'adoration, non des gestes obligatoires. Ananias et Saphira étaient libres de déterminer le montant qu'ils donneraient à l'Église. Ils auraient pu tout garder. Le problème n'est pas la valeur du don, mais le fait d'avoir menti au sujet du don. Ils prétendaient tout donner alors qu'ils avaient conservé une partie de la somme de la vente de la propriété. Versets 3 et 4. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Certains nient la divinité du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est une force. Notez que Simon-Pierre croyait que le Saint-Esprit était Dieu. Dans ces versets, nous voyons que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Dieu avait le droit de reprendre la vie d'Ananias. Certains accusent Simon-Pierre d'avoir tué Ananias, et ils le blâment pour son décès. Cependant, Simon-Pierre n'est coupable de rien, et il fut probablement autant surpris que tous lorsqu'Ananias est tombé. C'est Dieu qui a frappé Ananias. Voulez-vous porter des accusations contre Dieu? L'univers appartient à Dieu. Il a donné la vie et il a le droit de la reprendre. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous respirons l'air qu'il a créé. Nous utilisons les corps qu'il nous a donnés. Dieu n'est pas coupable en reprenant la vie. Dieu a exercé de la discipline dans son Église. Il est responsable de la mort d'Ananias et de Saphira. Versets 6 à 11. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, » répondit-elle, « c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Dans la jeune église, les chrétiens marchaient en sainteté de vie. Ananias et Saphira ont commis un péché qui mène à la mort. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Ce genre de péché n'était pas toléré dans la jeune Église. Elle était trop petite et Dieu l'a protégée. La crainte s'est emparée des chrétiens. Notez aussi que Simon-Pierre avait un esprit de discernement. Certaines personnes affirment avoir un tel esprit et elles infiltrent parfois les églises. Elles veulent tout diriger, mais ne sont jamais aux études bibliques. Si tous ceux qui mentent à Dieu dans nos églises tombaient morts, les embaumeurs feraient des bonnes affaires. Versets 12 à 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Le don des miracles confirmait l'authenticité du message des apôtres. Dieu confirmait l'origine divine de l'œuvre des apôtres par des miracles et des prodiges. La discipline exercée par Dieu a placé les gens dans la crainte. Les gens y pensent avant de se joindre à l'Église. Cependant, de nombreuses personnes sont toujours sauvées. Versets 15 et 16. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Notez que tous étaient guéris. Nos guérisseurs contemporains ne guérissent pas tous ceux qui viennent à eux. Personne n'a le pouvoir d'exercer ces dons que Dieu avait donnés aux apôtres. Ceux-ci servaient à confirmer l'origine divine de l'Église et le fait que les apôtres parlaient avec l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la Bible pour nous guider. Versets 17 et 18. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Les Sadducéens se sentent menacés par l'Église et ils la persécutent. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: nous voyons que Dieu dirigeait les activités des apôtres. Aujourd'hui, Dieu se sert encore de son Église pour faire avancer son œuvre. Dieu veut se servir de nous, les chrétiens. Ce ne sont pas les anges qui ont enseigné dans le temple, mais les apôtres. Versets 20 à 29. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres ont obéi à Dieu, et ils furent d'excellents témoins. La foule les écoutait. L'Évangile fut d'abord proclamé à Jérusalem, selon la mission que le Seigneur Jésus leur avait confiée. Les croyants doivent respecter et obéir aux autorités civiles, sauf lorsque ce qu'elles demandent est contraire au commandement de Dieu. Versets 30 à 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Notez deux choses. Premièrement, la crucifixion permet à Dieu d'élever Jésus comme prince et sauveur pour amener les gens à la repentance et pardonner leurs péchés. En mourant à la croix, le Seigneur Jésus a donné sa vie en rançon pour tous ceux qui viendraient à lui. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc, chapitre 10, verset 45. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu démontre que nous avons reçu l'Esprit. Pas les beaux discours et les belles paroles, mais des actes d'obéissance. Versets 33 et 34. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Gamaliel est un docteur de la loi très respecté. Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, fut un élève de Gamaliel. Versets 35 à 39. Puis il leur dit, « Homme, Israélite, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le conseil de Gamaliel est sage. De plus, il donne des exemples d'individus qui avaient suscité des soulèvements, mais ils périrent, et ceux qui les ont suivis périrent aussi, ou ils furent dispersés. Gamaliel leur dit que la même chose se produira avec les disciples de Jésus. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis, et, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Si les apôtres étaient innocents de tout crime, il fallait les relâcher sans les punir. S'ils étaient coupables d'un crime, il fallait les garder et les punir. Mais le Sanhédrin les a fait battre pour ensuite les relâcher. Ils auraient dû écouter le conseil de Gamaliel plus attentivement. Les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. La ligne entre la culpabilité et l'innocence est floue. Les tribunaux libèrent des accusés en leur donnant des peines dérisoires, mes amis. Un coupable devrait être puni et un innocent libéré sans l'imposition d'aucune peine. Versets 41 et 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les apôtres étaient des hommes étonnants. Ils se réjouirent d'avoir eu l'occasion de souffrir pour le Seigneur Jésus. Ils ont persévéré dans la proclamation de l'Évangile et d'annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Évangile ? C'est une personne, chers amis. C'est de connaître intimement le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous reçu le Seigneur Jésus dans votre cœur? Soit que vous le fassiez, soit que vous le rejetiez. Soit que vous faites confiance à Jésus-Christ, soit que vous ne lui faites pas confiance. Ou il est votre sauveur, ou vous n'avez pas de sauveur. C'est ça le message. Les apôtres n'ont pas cessé d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous, qui avez reçu le Fils de Dieu comme votre sauveur personnel, lui obéissez-vous? Si vous avez l'Esprit, cela devrait se manifester par l'obéissance. Êtes-vous fidèle en témoignant de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous? proclamez-vous le fait qu'il est mort à la croix pour les péchés des hommes, pour vos péchés, et qu'il est ressuscité afin d'intercéder pour nous auprès du Père. Obéissez-vous à Dieu, ou craignez-vous les hommes? La croissance spirituelle. Il ne suffit pas que de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, mais poursuivre dans l'enseignement des apôtres, de croître, de grandir. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous qui l'avez accepté comme votre Sauveur, vous venez donc de naître de nouveau. Vous avez reçu en vous la vie de Dieu, quel que soit votre âge. Vous êtes alors un enfant dans la foi. Et cette vie nouvelle, de nature divine, sainte, va se développer en vous, grandir pour devenir petit à petit adulte. Permettez-nous de vous faire quelques suggestions pour vous aider dans vos premiers pas. Premièrement, rappelez-vous constamment que si vous avez reçu cette vie nouvelle, vous êtes désormais un enfant de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu est votre Père. Il ne sera jamais défaillant. C'est un Dieu fidèle. Vivez en relation avec votre Père. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, ne risquez pas de perdre le contact avec lui. Pour entretenir cette relation, comme on se nourrit chaque jour, il est bon de prier et de lire la Bible régulièrement. Persévérez dans l'enseignement des apôtres. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sa famille. On entretient cette relation avec les autres. Nous vivons ensemble des liens d'affection, d'entraide, pour partager les temps de joie et de peine, de louange et de reconnaissance envers notre Père. Cultivez ces relations avec ceux qui sont, comme vous, enfants de Dieu. Enfin, notre Père Céleste veut que sa maison soit remplie. Dites à votre prochain ce que Dieu a fait pour vous. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi il fait de vous un témoin, une personne remplie de sa présence, de son Esprit Saint, afin que vous viviez dans la vérité. Oui. Il veut que votre vie soit caractérisée par l'obéissance à sa parole. Voilà ce que c'est un disciple. Voilà ce que c'est une personne qui suit l'enseignement de Jésus-Christ. Une personne qui persévère dans l'enseignement des apôtres. Encore aujourd'hui, nous pouvons nous recueillir dans la parole de Dieu et la mettre en pratique. Dans nos vies, dans notre quotidien. Que les gens voient que nous lui appartenons. Et le signe d'appartenance, c'est de prendre sa parole et de la serrer dans notre cœur. Jésus-Christ lui-même a dit, « Celui qui m'aime gardera mes paroles. » Et le Père viendra habiter en lui, et nous ferons notre demeure en lui. La Bible, le seul livre qui nous décrit, nous dépeint la condition de l'homme, sa perdition éternelle. Le seul livre qui nous parle de la justice et de l'amour de Dieu, de la venue du Sauveur, de l'œuvre expiatoire de la croix, de la gloire présente de Jésus. Tout cela est très clair dans ce livre. La Bible est le langage de Dieu. Pour le comprendre véritablement, il faut dans le cœur du lecteur l'action de l'Esprit-Saint lui-même. Et cette compréhension sera donnée aux humbles, c'est-à-dire à ceux qui ne se fient pas à leur propre pensée, mais qui désire d'être enseigné. Dieu se fait connaître à celui qui lui obéit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le livre des Actes, chapitre 6, versets 1 à 15.
Merci beaucoup, Régent. Quand je pense que les apôtres se sont retirés de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Des outrages, ça fait mal. Mais ça les rendait joyeux parce que c'était pour le Seigneur Jésus qu'ils souffraient. Ça me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais avec une autre croyante dans une ville du Québec. On venait d'aller à un salon funéraire et je connaissais une personne qui venait de faire un infarctus. Elle était à l'hôpital dans la ville où on était, alors j'ai demandé à mon amie si elle voulait aller visiter cette personne avec moi. Quand on est arrivé à l'hôpital, la personne dormait. On a donc décidé de rester près de son lit en silence, en attendant qu'elle se réveille afin de ne pas la brusquer. Et ne voulant pas passer toute la journée là à attendre, j'ai demandé à Dieu de la réveiller lui-même en douce. Et quelques secondes plus tard, elle a ouvert les yeux et m'a regardée. Elle avait beaucoup de douceur dans son regard. Cette dame était assez âgée, mais elle avait toujours conservé ses beaux yeux bleus, qui étaient assez frappants. Et ça paraissait dans ses yeux qu'elle était heureuse de me voir, heureuse d'avoir de la visite à l'hôpital. Elle n'était pas chrétienne, bien qu'elle était une personne très religieuse. Alors on a parlé de choses et d'autres pendant quelques minutes, et j'étais sur le point de lui dire que le Seigneur est bien puissant et que j'allais prier pour elle afin qu'elle puisse bientôt être remise de son infarctus. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase, parce que dès qu'elle a entendu le nom du Seigneur, elle s'est assise bien carrée dans son lit. Son regard si doux s'est transformé en un regard furieux, et elle m'a dit de prendre la porte. Ça m'a vraiment fait mal. Mais en même temps, une joie inexprimable a jailli en moi, et j'ai pensé au verset que Réjean nous a cité et que j'ai répété, disant que les apôtres s'étaient retirés de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est quelque chose de surnaturel. C'est une joie qui vient d'en haut de notre Père céleste. Et on peut comprendre ce que c'est de participer aux souffrances de Christ. Et bien sûr, Jésus a souffert bien plus que nous, moralement et même physiquement. Et il n'avait pas besoin d'endurer toutes ces souffrances pour lui-même, puisqu'il n'avait jamais péché. Il a choisi d'endurer ses souffrances afin de payer ma dette sur la croix. Jésus a donné sa vie pour moi, une pécheresse perdue qui méritait le châtiment éternel. Mon ami, Jésus a payé pour toi aussi, puisque sa parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aimerais-tu être pardonné? Aimerais-tu avoir la certitude de passer l'éternité au ciel dans la présence de Dieu? Eh bien, reconnais que tu es un pécheur toi aussi, que tu as besoin du pardon de Dieu. Repens-toi. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Et il s'invite en ce moment à demeurer chez toi, à entrer dans ton cœur, à devenir ton Seigneur et ton Maître. Alors demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il va le faire, c'est certain. C'est sa promesse. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. Il veut te consoler. Il veut être ton maître bien-aimé pour l'éternité.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions. Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.